Europe Live.
Nous sommes de retour sur Europe Live, la toute jeune web radio du lycée des métiers Europe, et nous sommes ensemble pour une heure encore environ, à l'occasion de cette journée porte ouverte au lycée. Au programme cet après-midi, plusieurs projets qui ont été organisés au lycée, notamment en février. On vous en annoncera aussi parmi ceux qui sont prévus pour la prochaine rentrée. Je pense que cela devrait intéresser nos futurs élèves présents au lycée aujourd'hui. On va déjà commencer, dans un premier temps, par embarquer en Angleterre, puisque deux classes ont eu l'opportunité de découvrir Londres en février. Pour m'accompagner au micro, Noémie, élève en première bac pro métier de la mode, qui va nous raconter ce qu'elle a vécu et comment elle l'a vécu. Et puis Carole Journet, qui est professeure d'anglais, pour nous décrire toute la partie préparation, programme de ce périple. Ensuite, autre chose, on va découvrir une auteure vraiment hors du commun, qu'une classe de bac pro a également rencontrée. Pour nous en parler, il y aura Priscilla et Amélie, élèves en seconde bac pro, accompagnement soins à la personne. Et enfin, nous allons nous intéresser à l'histoire de Joseph Weissmann, ce survivant de la rafle du Veldiv, que le lycée Europe a eu l'honneur de recevoir il y a quelques jours. Pour cela, Armel, élève de seconde bac pro qui a rencontré Joseph Weissmann, va nous rejoindre, ainsi que Sébastien Thévenot, également à la technique de cette émission, professeur d'histoire, géographie et éducation civique, qui a l'initiative de ce projet. Alors on va tout de suite partir en Angleterre, puisque du 19 au 22 février dernier, deux classes ont pu partir dans ce pays découvrir la ville de Londres. Et nos premières invitées de cet après-midi sont donc Carole Journet, bonjour.
Bonjour.
Et puis Noémie aussi.
Bonjour.
Alors elles vont nous parler toutes les deux justement de ce voyage. Bonjour à toutes les deux. Première question déjà pour vous, Carole. Qu'a apporté ce voyage scolaire aux élèves ? Quels étaient les objectifs que vous aviez peut-être au départ ? Qu'est-ce que ça leur a vraiment apporté ?
Alors, les objectifs au départ étaient de les mettre dans une situation réelle, à Londres, de leur faire découvrir la ville et de leur faire découvrir une autre culture.
Ce qu'ils ont pu faire, du coup, en allant directement.
Oui, beaucoup apprécié.
Alors oui, l'ensemble a été plutôt positif.
Tous les élèves étaient ravis.
Bon, j'imagine que ça a dû être lourd niveau organisation.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous raconter, justement, c'est parti d'où ce projet, d'ailleurs ? Vous avez commencé quand ?
Alors, j'ai commencé à réfléchir au projet en mai dernier. Et ensuite, j'ai contacté un organisme pour l'organisation du séjour. Et puis ensuite, j'ai essayé d'organiser différentes actions pour minimiser le coût.
Oui, quel type d'action vous avez pu organiser justement pour...
Alors, nous avons organisé un défilé de mode en relation avec les collègues d'enseignement professionnel, des ventes d'objets divers et ventes de crêpes également.
J'imagine donc tout ça, c'était pour évidemment réduire le coût du voyage pour les familles.
Oui.
Donc ça, c'était vraiment tout le temps de préparation.
Oui.
Ça a été uniquement pour financier ou ça a été aussi une façon aussi de sensibiliser un petit peu les élèves aussi à ce projet ? Est-ce que les élèves qui sont partis en Angleterre ont participé aussi au projet, par exemple, défilé ?
Ah oui, bien sûr. Donc toute la classe de première MMV a participé au défilé. C'était d'ailleurs sur le thème de la mode britannique.
Donc c'était
oui, en lien direct. Et ils ont également vendu les crêpes au moment de la pause et bien sûr vendu des objets également à différentes reprises.
D'accord. Vous parlez du défilé. Comment ça s'est organisé justement plus particulièrement ?
Les élèves ont d'abord réfléchi à la confection des robes. Ensuite, on a travaillé tous en commun pour la recherche d'une salle. Pour organiser un buffet également à cette occasion et une tombola.
Donc plusieurs actions qui ont été menées.
Plusieurs actions ce jour-là. Oui.
Finalement, en lien, pas que entre les profs d'anglais, vous étiez finalement aussi avec d'autres professeurs
bien sûr,
métier de la mode,
oui,
entre autres.
Oui, on a eu l'intervention des collègues d'enseignement de coiffure, d'esthétique, ATMFC également, qui ont confectionné le buffet. Donc oui, plusieurs collègues.
Toutes les filières qui sont retrouvées, réunies pour ce projet
oui.
commun, du coup. Justement, sur ce sujet, je vous propose tout de suite d'écouter Élise Lecroc, qui est professeure justement en métier de la mode, elle a supervisé la confection de toutes ces tenues. Elle va expliquer le caractère transdisciplinaire du projet. On l'écoute tout de suite.
Alors, tout a commencé par Madame Journet, qui a lancé l'idée de faire un voyage autour d'un projet interdisciplinaire entre l'enseignement général et puis l'enseignement professionnel. Mon objectif était justement de lier l'enseignement général et la partie professionnelle par la réalisation d'un défilé. Donc à partir d'une recherche d'idées et d'inspiration sur la mode anglaise, les élèves avaient créé des modèles sur des inspirations différentes, acheté la matière en fonction de leurs inspirations, réalisé les patrons et réalisé justement la robe par la suite. Ça a été une grande implication pour tout le monde, la solidarité dans l'ensemble du travail. Je pense que les élèves se sont rendus compte que ça demandait de la rigueur et de l'investissement, même si sur l'ensemble du projet, on est quand même contraint de respecter certaines règles. Je pense que l'ensemble du travail a comblé tout le monde. Une très bonne expérience. Après, c'est l'ensemble du travail des élèves qui a été valorisé. Et ça, je pense que ils en sont conscients et c'est surtout pour la suite entre la relation avec le travail sur l'enseignement général et puis l'enseignement professionnel où il faut concevoir que c'est deux enseignements indissociables.
Alors on a eu des premières réactions de l'organisation de ce défilé. J'aimerais bien savoir, toi Noémie, quel a été ton ressenti puisque tu as participé au défilé ?
Oui.
Alors, est-ce que tu étais fière justement de la réalisation de la tenue que tu as réalisée, que tu as même pu présenter, je crois, le soir-là ?
Oui, en effet, oui, j'ai été très fière. J'ai pu montrer une de mes créations, qui c'est justement ce que je veux faire plus tard. Et malgré les difficultés qu'on a pu avoir, pouvoir terminer la robe à temps et la présenter devant un grand public quand même.
C'est la première fois que tu présentais comme ça une de tes créations ?
Il y a déjà eu une première fois l'année dernière aux Portes Ouvertes. D'accord. Du lycée Europe, et cette année c'était la deuxième justement.
Et justement, pour qu'on en sache un peu plus, est-ce que tu peux nous présenter cette création en quelques mots, ce que tu as créé ce soir-là ?
Alors, j'ai présenté une robe toute simple en bustier, sans bretelles, bleu électrique et noir, avec une petite traîne amovible qui volait quand je marchais, gracieusement.
Et quelle était la matière dont tu t'es servie pour...
Alors, j'ai utilisé du satin duchesse. Donc, c'est un satin qui est assez épais.
Oui, il faudra nous expliquer.
Plutôt brillant. Enfin, c'est une matière brillante qui est assez épaisse, qu'on utilise pour faire les corsets ou autre. Et j'ai utilisé un voile.
D'accord. Alors, je pense que ça a été un vrai succès. Ta création évidemment, mais aussi tout l'ensemble du défilé. Je vous propose de revivre déjà quelques-uns des beaux moments de cette soirée pour presque la vivre comme si on y était.
Nous vous invitons à feuilleter le livre de la collection Voyage en Angleterre. Chaque modèle représente une identité, une seule envie, celle de vous séduire et de vous faire découvrir ce qui leur tient à cœur. Inès, maintenant. apportée comme un grimage. Une robe classique que l'on peut associer avec des bottes, des noires, des tenues militaires, pourquoi pas, pour faire un contraste joli sur le décalage qu'adorent les Anglais. Et ajouter aussi un bracelet clouté, pour faire plus rock. Merci. Bien ton tour, pour finir, Samantha.
Alors je crois que vraiment le succès de ce défilé, on l'entend bien, on le perçoit bien. Venons-en à présent au voyage à proprement dit. Vous avez concocté, Carole Journet, un programme vraiment dense et varié. Est-ce que vous pourriez nous en présenter les grandes lignes ?
Oui, nous avons tout d'abord fait une longue balade à vélo dans Londres, qui a duré 3 heures. Nous avons le lendemain fait une balade en bateau, également un tour guidé en bus.
Pour découvrir
la ville, les monuments, etc. Nous avons assisté à la relève de la garde. Nous avons également pris la grande roue, fait un petit peu de shopping et nous avons terminé en assistant à une comédie musicale.
D'accord. Oui, donc finalement... un petit peu tout l'univers de Londres.
Oui, tout à fait.
Quelle comédie musicale vous êtes allée voir ?
We Will Rock You.
Ah, d'accord. Et Noémie, alors quel était le meilleur moment du séjour que tu gardes en mémoire, puisque tu es partie également ?
Alors en fait, j'ai plutôt deux meilleurs moments. Le premier, c'était juste avant d'aller à la relève de la garde, en attendant de pouvoir l'heure. Avec toute la classe des 1MMV et des TEANF, nous avons fait une sorte de petite battle juste en face de London Eye. Mm-hmm. C'était très sympathique. Il y a eu des touristes qui ont même participé aussi. C'était vraiment
en pleine rue ?
Oui.
D'accord.
Ce qui nous a vraiment rapprochés. Et ensuite, la comédie musicale. Il y a eu une très bonne ambiance et tout. C'était vraiment super.
Bon. C'est vraiment deux moments, je pense, un moment fort que tu garderas en souvenir et en mémoire longtemps, je l'espère.
Oui.
Vous avez été hébergé donc dans des familles britanniques. Est-ce que tu as beaucoup parlé anglais, Noémie ?
Bah, pas tellement que ça, en fait, parce qu'on revenait tard le soir, donc le temps qu'on fasse toutes nos préparations. Mais le premier jour, on a bien parlé, on a découvert la famille, les lieux, enfin...
Au fur et à mesure, en fait. Pas le premier soir, en fait. T'as pas pu parler anglais forcément le premier soir, mais
bah,
peut-être...
J'ai plus parlé le premier soir que les autres jours, en fait.
D'accord. Et est-ce que ça n'a pas été trop difficile, l'hébergement en famille ?
Non, ça a été.
Tout de suite, à l'aise ?
Bah oui. Enfin, j'avais déjà fait des voyages, donc pour moi, ça a été.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, alors, ce voyage, puisque au final, aujourd'hui ?
Ça m'a apporté une culture, que certaines choses que je connaissais pas, une culture, à voir si j'arrivais moi-même à m'exprimer en anglais face aux Anglais, ce qui n'était pas forcément facile, et puis voilà.
Et est-ce que vous avez goûté un peu la cuisine anglaise ?
Oui.
Alors, est-ce qu'elle a été appréciée ?
Oui. Oui.
Ah bon ?
Franchement, oui.
On a du mal à y croire, mais bon.
On a mangé des choses simples.
Qu'est-ce que vous avez mangé, alors ?
On a mangé une spécialité qui était le fish and chips.
Oui.
Donc ça a plutôt plu.
On connaît.
Oui. La famille nous faisait des plats qu'on connaissait. Donc
vous avez été bien accueillis en plus,
ouais.
Bien mis à l'aise.
Ouais, tout à fait.
Et ça a beaucoup aidé. Bon. Alors, Carole, pour terminer, quel bilan vous tirez de ce voyage en particulier et surtout de ce projet en général ?
C'est un bilan très positif. Les élèves ont bien joué le jeu, ont beaucoup apprécié. Ça a bien soudé la classe. Donc, voilà. Belle expérience.
Eh bien, écoutez, Carole Journé et Noémie, je vous remercie beaucoup toutes les deux d'avoir participé à cette émission. On se retrouve juste après une petite pause musicale avec un groupe qui nous vient de Troyes et qui s'appelle The Destroy.
Think about the time. Think of the losses which are breaking the mind. Feel the echoes from the ground. Of all these beatings falling without a sound. There's no place to compromise. When it's too far, we think it's wise to close the eyes. A mouse lamp always remains a dust lamp, and you see, no, there's nothing here for you and me. There's nothing. Memory, remind our fight. I feel the breeze of the past. Think about the crime. Think of the tears falling from the sky. A sorrow made of million sounds. The ocean filled with the fear of their lives. There's no place to compromise. When it's too far, we think it's right.
Les élèves de seconde bac pro accompagnement et soins à la personne ont rencontré une auteure vraiment hors du commun dans le cadre d'un partenariat avec Interbibli, qui est une agence de coopération entre les bibliothèques et centres de documentation. L'objectif de ce projet, c'était que les élèves comprennent comment un écrivain procède pour écrire, quelle source d'inspiration, jusqu'à la publication finale de son livre. Pour en parler, j'ai en ma compagnie deux élèves, Priscilla et Amélie. Bonjour toutes les deux.
Bonjour.
Alors, Priscilla et Amélie, vous avez eu la chance de rencontrer Élise Fontenaille, puisque c'est l'auteur dont on va parler, l'auteur du livre « L'homme qui haïssait les femmes ». Est-ce que, Priscilla, tu pourrais nous en parler un petit peu plus ?
Donc, le lundi 10 février, au lycée Europe à Reims, à 9h, la classe de 2ASS a rencontré une auteure, Élise Fontenaille, au CDI, qui est venue pour répondre aux questions que nous nous posions sur son livre « L'homme qui haïssait les femmes » et nous donner plus de détails sur sa manière d'écrire. Pour cette interview, nous avions lu le livre. Ensuite, nous avions fait des affiches et des questions pour l'accueillir. Le livre d'Élise Fontenaille parle d'un étudiant qui haïssait les femmes, Marc Lépine, qui est venu dans une classe dans l'école polytechnique au Québec et a séparé les femmes et les garçons pour abattre les filles, car pour lui, elles étaient féministes. Et ce livre a été tiré d'un fait divers.
Donc un livre qui parle d'un fait divers qui a réellement existé. Nous allons tout de suite écouter l'interview que votre classe a faite d'Élise Fontenaille.
J'étais journaliste avant, pendant une dizaine d'années. Puis j'en ai eu assez du journalisme. Moi, ce que je voulais, c'était écrire. Mais quand même, là, c'était passionnant de renouer avec l'enquête, j'avoue. Parce que tout ce que je raconte là est réel. Bon, aussi, j'ai inventé des détails, uniquement des détails. Mais pour l'essentiel, tout est vrai. Alors là, il y a deux choses en ce fait divers. C'est l'histoire elle-même. Terrible, hein. C'est Marc Lépine, ce fou paranoïaque. Parce que pour moi, c'est un démon, hein. Ni plus ni moins. Après, on a cherché des raisons à son geste, mais c'est la folie, c'est la paranoïa. Hein, qui... Puis aussi le fait de pouvoir disposer librement, aisément d'une arme, qui est terrible, parce que tout le monde pète un câble dans sa vie, mais je sais pas, moi, quand je m'énerve, je casse des assiettes. Mais c'est moins grave, quand même. Ça fait guerre de victimes.
Pourquoi êtes-vous devenue journaliste ?
Mais ça, en fait, c'est parce que c'était pas mon but dans la vie, c'était l'occasion. Si je pensais que c'était bien pour... Moi, c'est la littérature qui me fascine. C'était pour apprivoiser l'écriture. Et je dirais que mes 10 ans dans la presse écrite, dans un journal particulier, où d'ailleurs on est presque tous devenus écrivains ou cinéastes, on n'était pas des vrais journalistes, ça m'a appris quand même à trouver un style. Ça m'a appris à enquêter vite et à écrire vite et bien, ce qui est très précieux, vraiment. Parce que maintenant, je peux écrire vraiment vite. Et j'ai tout le temps des idées. Ça, je pense que c'est quand même 10 ans. Où j'étais payée pour en avoir des idées tout le temps, et faire des enquêtes approfondies, parce que c'est énorme quand même la pression sur le journaliste pour faire un bon travail très rapidement. Mes autres copains écrivains ne connaissent pas ça, et c'est très utile quand même. Donc voilà, au bout de 10 ans, j'en ai eu assez, puis j'ai envoyé mon premier roman par la poste, La Gommeuse, qui se passe au hammam de la mosquée de Paris, qui a été pris tout de suite par les éditions Grasset. Et depuis, je n'ai cessé d'écrire... Ça fait, cette année, j'en publie 4 de romans, 3 pour la jeunesse, pour adolescents, donc pour votre âge, et un autre pour adultes. Oui, puis je me suis fait virer de mon journal, en fait, parce que moi, je suis vraiment une forte tête et je déteste faire ce qu'on me dit de faire. Et puis, à un moment, on m'a dit de faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Donc,
Quelle est votre façon de travailler ?
Oh, alors, moi, je suis très... Moi, j'étais un cancre à l'école, hein, donc j'ai aucune méthode de travail, je prends 0 note, c'est au feeling, en fait. Je travaille beaucoup. Là, je paye le fait d'être cancre, c'est que maintenant, je travaille énormément. Hein, vraiment, les copains écrivains à côté qui écrivent des petites histoires à moi à 2 balles et tout, ils se foutent pas trop. Hein. Mais moi, je bosse beaucoup, tout le temps. Et donc, je fais en sorte de tout savoir sur ce qui m'intéresse. Mais après, il faut tout oublier. Sinon, ça fait un petit peu... je recrache mal son. Donc, voilà, je me suis complètement imprégnée. D'ailleurs, c'est un peu traumatisant, ce genre de sujet-là. Pendant, je vais être un peu maso parce que souvent ça va de pire en pire. Là, le dernier livre que je sors bientôt, c'était vraiment. Je vous en parlerai un peu parce que c'est intéressant. Les deux approches pour adolescents et pour adultes. Mais à chaque fois, c'est de pire en pire. Bon, en fait, c'est captivant de travailler, d'étudier des choses cachées, surtout faire ressurgir des choses cachées. Donc voilà, je travaille énormément, j'oublie tout, puis après, j'écris, je me lance. Et en fait, ma méthode de travail, c'est d'être à fond dans ce que je fais. C'est plus important que tout jusqu'à la fin. Puis après, c'est un autre livre.
Et quelles ont été les démarches que vous avez faites pour ce livre ?
Ben, je suis retournée là-bas, déjà. J'ai parlé à des gens.
Comment avez-vous fait pour vous mettre dans la peau des personnages ?
Ben, ça, c'est mon métier. Hein. Bon, il faut dire que je suis quelqu'un... Je pensais pas pour rien aussi que je suis écrivain, c'est que j'ai ce qu'on appelle le don d'empathie. Je me mets très facilement à la place de quelqu'un, même presque une maladie. Je ressens très facilement ce que mon interlocuteur ressent, c'est presque physique, c'est un peu gênant des fois d'ailleurs. Donc voilà, ça m'est très facile de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et la pratique du journalisme aussi donne une ouverture que les écrivains n'ont pas tous, c'est de mettre à la place de l'autre sans juger. Ça m'intéresse de comprendre l'autre, même s'il est très différent de moi, même si je peux l'identifier entre guillemets comme un ennemi, même un gros misogyne. Un beauf, ça m'intéresse de savoir ce qu'il pense. Et je trouve qu'on diabolise trop facilement les gens. Il faut comprendre l'adversaire pour discuter. Parce que sinon, on ne va pas tous sortir les fusils, on ne s'en sortira plus. Quoi.
Comment êtes-vous passé du journalisme au métier d'écrivain ?
En étant foutu à la porte. Comme quoi, d'un mal naît un bien. J'étais virée, j'étais au chômage, je n'avais plus un radis. Donc je me suis dit, vas-y, comme je voulais toujours écrire, là j'avais du temps. Et je me suis lancée à l'eau. C'est la première fois que je me suis dit, tu vas arrêter de dire que tu vas faire ça, tu vas le faire vraiment jusqu'au bout. Donc là, voilà, je me suis lancée. J'étais au chômage une assez longue période, plus un radis et du temps. Donc je me suis dit, bah vas-y, quoi.
Est-ce que vous gagnez bien votre vie?
Non, vraiment pas. Alors là, non, là, c'est vraiment... là, si c'était pour faire du fric, là, c'est... Non, mais... En même temps, étant écrivain, j'ai fait vœux de pauvreté, mais pas pour mon propriétaire, malheureusement. Non, non, là, c'est vraiment un métier de crève la faim. Pour ça, c'est bien que vous m'ayez fait à manger. Non, mais je savais. Pour moi, c'est un travail de moine soldat de l'écriture. Hein. J'ai vraiment fait vœux de pauvreté. Je veux pas pleurnicher, quoi. C'est comme je sais que pas de retraite ni rien. Limite pas de sécu, je m'en fous. Hein. On peut pas tout avoir dans la vie. C'est la vie d'artiste. Hein. J'ai des copains qui sont là, ils veulent tout. Bah non. T'as choisi. Hein. Non, puis pour moi, c'est un tel plaisir. Et je dirais, c'est un tel honneur d'être publié, de rencontrer des gens comme vous. Non, c'est ça, en fait. Il y a les richesses matérielles, mais moi, je m'en fous. J'ai accès à des richesses qui n'ont pas de prix. Des rencontres comme celle-ci, ça n'a pas de prix. Qu'une lectrice ou un lecteur dise qu'elle a été touchée par votre livre, ça n'a pas de prix. Je crois vraiment aux richesses immatérielles. C'est les seules importantes. Je n'ai pas de voiture, donc... Je n'ai pas le permis, donc je n'ai pas de désir d'avoir une belle bagnole. Ça, c'est clair. Même un vélo, il vaut mieux pas. La dernière fois que j'ai fait du vélo à 14 ans, je me suis pris une bagnole. J'avais oublié de mettre mon bras pour tourner. Donc ça me va très bien, les transports en commun. Et puis en plus, je me déplace pas mal pour mes livres. Donc j'ai pas de sous pour des vacances, mais je m'en fous, quoi, finalement. Parce que mes vacances, c'est de vous rencontrer. Bah, je vous remercie d'avoir été bien attentive, hein, et tout ça, quoi. Et d'avoir lu et apprécié ce livre. Et je suis ravie de vous avoir rencontré.
Je crois qu'on l'aura bien entendu, cette rencontre s'est vraiment bien passée. Comme cet auteur était journaliste au départ, on comprend d'ailleurs mieux pourquoi elle a décidé d'écrire un livre sur un fait divers. Et du journalisme à l'écrivain, il n'y a bien souvent qu'un pas. Amélie, je me tourne vers toi. Est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur cette rencontre? Qu'est-ce qui t'a le plus étonnée?
Ce qui m'a le plus étonnée, c'est qu'elle est simple. Elle a la tête sur les épaules et c'est ce qui m'a le plus étonnée.
Et c'est finalement, on l'entend bien d'ailleurs dans sa façon de parler à quel point elle peut être simple. Qu'est-ce que tu retiendrais finalement? Qu'est-ce que tu as retenu du métier d'écrivain?
Qu'ils ne sont pas si réservés que je le pensais. Ils sont moins sérieux. Ils ont un langage moins soutenu que...
Ils sont finalement beaucoup plus accessibles que ce que tu t'étais imaginé.
Oui, beaucoup.
Et finalement, est-ce que ça t'a donné envie de lire d'autres livres d'ailleurs de cet auteur?
Oui.
Qu'on a déjà d'ailleurs pu évoquer, comme par exemple La Gommeuse, etc. Donc tu retiens plutôt quelque chose de positif?
Oui.
Bon, merci beaucoup Amélie et Priscilla. Nous faisons une petite pause musicale avant de nous retrouver pour un autre projet en histoire cette fois-ci. Merci beaucoup.
Hace días que ando buscando razones y tú me quitas vida y fe. Perdido en la desesperanza. Esta primavera ya no huele a flores ni a tu piel. Llegas y desapareces como ángel. Llenas este laberinto y este corazón. No, ya no encuentro motivo para dejarte ir. No. Preso de este sentimiento y no hago otra cosa que solo pensarte. Quiero borrarte de mi mente. No es nada fácil y es que eres tan musical que vienes y te vas, así como si no eres tan musical como el viento que pasa entre hojas. Dices nada. Música. Y regreso a
esta estación y deliro con tu voz que rompió el silencio de un sueño perdido. Lejos de ti nada tiene sentido y mi corazón ya no se contenta y esta solución no está a la venta. Eres tú lo que me complementa, siempre tú. Ay, baby, tú. Hoy me encuentro preso de este sentimiento y no hago otra cosa que solo pensarte. Quiero borrarte de mi mente. No es nada fácil, es que eres tan musical que vienes y te vas, así como si nada. Eres tan musical como el viento que pasa entre hojas.
Nous accueillons à présent sur le plateau deux nouveaux invités pour parler avec nous d'un projet mené sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Sébastien Thévenot.
Bonjour.
Vous êtes professeur de lettres histoire au lycée professionnel Europe et vous êtes accompagné d'Armel Mauvex, élève de seconde bac pro, métier de la mode et du vêtement. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, pouvez-vous nous parler, Sébastien, de ce projet que vous avez appelé Itinéraire, illustre et anonyme dans la Seconde Guerre mondiale ?
Oui, bien sûr. C'est un projet qui s'inscrit dans le programme d'histoire de première bac pro. Il s'agit d'étudier l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et cette année, j'ai souhaité donner une orientation un peu particulière à ce programme en organisant à côté des cours à proprement parler une sortie pédagogique. On pourrait apprendre en dehors du lycée et puis aussi faire intervenir un acteur de cette Seconde Guerre mondiale. Donc je suis rentré par le personnage parce que c'est le personnage qui s'engage dans l'histoire. Donc il porte aussi certaines valeurs et il y avait ce côté citoyen dans le projet que j'ai monté. J'ai monté le projet avec l'accord de l'administration ici. On a obtenu une subvention du ministère de la Défense dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle EDUCADEF. Et puis, on a petit à petit monté ce projet qui se termine la semaine prochaine avec l'enregistrement d'une émission de radio comme là, où les élèves de première SPVL et première ASD vont restituer tout ce qu'ils ont fait dans le cadre de ce projet.
Alors, vous venez nous parler de sortie. Finalement, quelles ont été les différentes étapes de ce projet ?
Alors, la première étape a été d'étudier en classe le régime de Vichy, qui constitue une rupture en 1940. Après quoi, nous nous sommes rendus au mémorial Charles de Gaulle à Colombelles et les deux églises, qui est une structure muséographique très moderne, très interactive, où l'élève peut être acteur du savoir qu'il essaie de construire. Après quoi, nous avons invité Joseph Weissmann, qui est rescapé de la rafle du Veldiv. Il avait 11 ans en 1942. Nous l'avons invité, il a accepté de venir devant les classes. Donc voilà, c'est un projet qui touche plusieurs pans de ces heures sombres de l'histoire de France.
Alors avant de parler de Joseph Weissmann, puisque nous allons en parler tout à l'heure, revenons plutôt sur la sortie au mémorial Charles de Gaulle. Pourquoi avoir choisi de délocaliser votre cours, si je puis dire, à Colombey-les-Deux-Églises ?
De l'expérience malheureuse que j'ai eue avec une classe l'an dernier, la Seconde Guerre mondiale est vue en troisième, il la revoit deux ans plus tard ici au bac pro et c'est souvent très loin, alors qu'il n'y a que deux ans qui séparent ces deux classes. Et comme je le disais, au mémorial, il y a des équipements très modernes, très interactifs, on est dans une scénographie immersive et l'élève est véritablement acteur du parcours d'exposition. Il y a des films sur écran panoramique, il y a des bornes tactiles. Donc voilà, il y a plein de petites astuces qui permettent eh bien, d'attraper l'élève et puis de faire en sorte qu'il apprenne autrement. C'était l'objectif de ce déplacement.
C'est beaucoup plus interactif également. Alors je vous propose d'écouter un reportage qui a été réalisé à partir de prises de son sur place que les élèves ont fait eux-mêmes effectuer au mémorial de Colombey-les-Deux-Églises.
Effectivement, il s'agit d'abord d'un extrait. Donc, ce sont des sons qui ont été captés par les élèves. Mmh. Ils ont interviewé la responsable pédagogique qui est également sur place à Colombey-les-Deux-Églises. Et ces sons, on va les utiliser pour l'émission enregistrée la semaine prochaine. Donc, dans un premier temps, c'est un extrait d'un film sur lequel on a travaillé. Et puis ensuite, il y a une question qui a été posée sur, évidemment, l'appel du 18 juin.
Brusquement, Hitler décide d'envahir la Belgique et les Pays-Bas. L'armée française se décide à intervenir.
Je serais cependant assez surpris si les objectifs actuels de Hollande et de Belgique devaient constituer vraiment la grande bataille franco-allemande.
En effet, trois jours plus tard, c'est la percée des Ardennes et la rue est allemande.
Plus que ceci, il faut sauver la France.
Qui est de Gaulle le 18 juin 1940? C'est un jeune général, il est général depuis 18 jours. C'est un homme qui a toujours été, de par son caractère et sa personnalité, dans son parcours militaire, quelqu'un qui s'est démarqué, quelqu'un qui a mis en avant ses idées très particulières en matière de stratégie, par exemple. Et il a une vision de la France très particulière. Ce qu'il veut, lui, c'est une France libre, qui continue de se battre pour pouvoir se libérer de l'occupant allemand. Et donc, depuis la BBC, il lance son fameux appel, où il dit qu'il veut que les soldats qui ont des armes puissent venir le rejoindre à Londres pour organiser cette France libre qui constitue en fait la résistance extérieure. Et il va l'organiser depuis Londres et il va surtout l'organiser depuis les colonies d'Afrique noire où il va avoir l'appui de gouverneurs de colonies comme Félix Eboué. Et donc là, la résistance est en route. Hein. Et très vite, au cours du mois d'octobre 1940, il va donner à cette France libre un symbole qui est la Croix de Lorraine, que l'on va voir apparaître sur toutes les unités militaires qu'il va créer dans le cadre de cette armée de la France libre.
Alors ça, c'était donc la visite au mémorial. Et si je comprends bien, dans un second temps, vos élèves ont pu rencontrer un rescapé de la rafle du Veldiv.
Oui, exactement. Donc c'était la deuxième partie du projet. Les instructions officielles des programmes nous invitent à traiter la rafle du Veldiv comme un exemple emblématique de la politique antisémite de Vichy. J'avais entendu à la radio, au moment d'une commémoration en 2012, Joseph Weissmann sur Europe 1. Et donc je l'ai contacté et il a accepté de venir. On a élargi, donc il y a une centaine d'élèves qui a participé à cette rencontre qui s'est déroulée le 17 février dernier.
Dont Armel, qui est donc là parmi nous. Et je me tourne à présent vers toi. Comment toi et ta classe vous êtes préparés pour la rencontre de Joseph Weissmann ?
Donc du coup, pour préparer la rencontre avec Joseph Weissmann, en cours d'histoire, nous avons pu regarder un film, La Rafle. Autour de ce film, on a préparé des questions pour les poser à Joseph Weissmann le jour J.
Et comment s'est déroulée la rencontre qui a été organisée au lycée le 17 février dernier au lycée Sébastien Thévenot?
Alors, il faut dire que le film que vient d'évoquer Armel est intéressant. C'est le film La Rafle, donc, de Roselyne Bosch, sorti en 2010, qui a eu beaucoup de succès au cinéma. Et c'est son histoire à Joseph Weissmann qui a été adaptée dans ce film. Joseph Weissmann souhaitait qu'en amont, les élèves aient tous vu ce film. Alors, lors de la rencontre, il a fait un récit assez bref des différentes étapes de son histoire, surtout axé surtout sur l'année 1942. Ensuite, les élèves ont posé assez longuement, pendant plus d'une heure, des questions nombreuses. Et puis, ils ont pu se faire dédicacer le livre par l'auteur lui-même, puisqu'il a écrit un livre. Et enfin, quelques-uns, dont Armel, je crois, a été interviewé par des journalistes sur place qui s'étaient déplacés pour faire un papier dans leur journal.
Journaliste de la presse locale, effectivement, qui s'était déplacé. Alors écoutons tout de suite Joseph Weissmann qui évoque, alors qu'il n'a que 11 ans en 1942, la façon dont il a vécu le port de l'étoile jaune.
Moi, je m'attendais à ce que tous les gens nous crachent dessus, nous jettent des pierres. Cette étoile, elle était infamante, vous la voyez, la regardez, juif, écrit comme ça, vous voyez, en caractère assez particulier, jaune, bordé de noir et tout. J'avais honte, j'étais pas comme les autres. Je savais pas avant qu'il y avait des gens qui étaient juifs et des gens qui n'étaient pas juifs. Je ne savais pas la différence qu'il y avait entre les deux, mais enfin, moi, j'étais juif, et donc j'étais une saloperie, quoi. Voilà comment j'ai pris les choses. Mais je dois dire que personne ne m'a craché dessus, que personne ne m'a jeté de pierre, et que quand je suis arrivé dans ma classe, j'étais tout seul dans ma classe à voir l'étoile, personne ne m'a dit « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Rien du tout. Donc, si vous voulez, pour répondre à votre question, moi, j'étais malheureux de me sentir pas comme les autres, mais les autres ne s'occupaient pas de moi.
La suite de son histoire va être dramatique, puisqu'il va vivre avec sa famille les séquences les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Armel, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu cette histoire de cette rafle, justement, du 16 juillet 1942?
Oui. Donc, comme l'a dit M. Thévenot, à seulement 11 ans, Joseph Weissmann a été déporté au vélodrome d'hiver. Il y est resté pendant 5 jours. 5 jours, on va dire, atroces, presque sans nourriture, peu d'eau. Au bout du cinquième jour, ils ont été déportés
dans un camp.
Dans un camp, à Beaune-la-Rolande, oui, c'est ça, où il a été séparé de sa mère et de son père. Et après, sur ces faits, il s'est retrouvé seul et a donc dû décider de s'évader. Je tiens aussi à dire que pour s'évader, il a quand même mis 6 heures pour pouvoir s'extirper des barbelés et pouvoir sortir de cet enfer, quoi.
Et donc, il a été livré à lui-même.
Oui.
À partir de là.
Voilà.
Alors, Joseph Weissmann, justement, va nous raconter un peu plus cette période, cette évasion.
Jo et moi, on a mis à peu près plus de 6 heures entre le moment où on est rentré dans les barbelés et le moment où on était de l'autre côté des barbelés. Pourquoi ? Mais parce que ces barbelés étaient infranchissables. Mais vous allez me dire, ils n'étaient pas infranchissables puisque Jo et toi, vous avez réussi. Mais je dis oui, mais parce qu'on pesait 20 kilos, on était gros comme un berger allemand, et avec nos petites mains, on a écarté les barbelés. C'est pas des barbelés comme on a vu ici, là, pour garder les vaches, c'est des barbelés où tous les piquants se touchent. C'était inextricable, c'était impénétrable, c'était impossible.
C'était impossible, ce sont les derniers mots de Joseph Weissmann, et pourtant Sébastien, il a réussi à retrouver sa liberté.
Effectivement, il retrouve sa liberté, mais il a 11 ans, il est seul, il ne sait pas ce que sont devenus ses parents. Et le réflexe va être de rejoindre l'appartement à Paris, qu'il a abandonné quelques semaines plus tôt. Il va évidemment trouver porte close. Donc la liberté, mais au prix d'une vie sans ses parents. Il va les attendre pendant plusieurs années, il ne comprendra que bien plus tard. Et puis c'est également une vie dans la clandestinité, puisqu'il va être recueilli par des organismes qui vont prendre en charge les des enfants juifs. Il va être placé en orphelinat, puis en famille d'accueil, avec des allers-retours incessants. Avec le temps, évidemment, il a compris ce qui s'était passé, mais il a gardé cette histoire pour lui. Il a fondé une famille, il a mené une brillante carrière professionnelle, et ce n'est qu'au moment de la retraite que cette histoire ressort et qu'il va chercher à comprendre, à partir sur les traces de ses parents avec des expériences dramatiques dont il a fait le récit, notamment à Auschwitz. Et en 1996, c'est une rencontre avec Simone Veil, qui elle aussi a été déportée avec sa famille à Auschwitz, mais bien plus tard, en 1944, qu'il prend conscience de la nécessité de témoigner, d'où sa venue ici au lycée Europe.
Et depuis, inlassablement, il parcourt les établissements scolaires en France, mais aussi à l'étranger. Il nous raconte pourquoi.
Il est important que vous sachiez ce qui s'est passé dans votre pays. Vous savez, un pays qui connaît bien son passé, je crois, peut mieux créer son futur. Alors, j'estime que c'est mon devoir de le faire. Je le fais par devoir. Je suis très content de voir que les jeunes sont très intéressés, pas curieux, très intéressés, très ouverts, et que il est nécessaire qu'ils connaissent cette page de l'histoire. Je suis un des rares témoins qui reste encore. Tout pendant que j'aurai un petit peu d'air dans mes poumons, je continuerai, parce que j'estime que c'est indispensable. Mais tout ce que j'avais à vous dire, je vais le dire maintenant en trois mots. Tout ce que je vous ai dit n'a aucune importance. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est le plus important. À un moment donné de votre vie, n'acceptez pas l'inacceptable. Voilà mon message.
N'acceptez pas l'inacceptable, je crois que ce sera le mot de la fin de ce beau projet. Je rappelle que Joseph Weissmann a publié un livre sur son histoire. Il est d'ailleurs aux éditions Albin Michel sous le titre « Après la rafle ». Et vous pourrez également retrouver prochainement sur le site du lycée, lp-europe.fr, l'émission spéciale réalisée par les élèves de Premier Bac Pro en soins à la personne et en SPVL. Merci Sébastien, merci Armel. Et nous, on se retrouve après une petite pause musicale.
Europe Live.
Alors pour clore notre émission de cet après-midi, nous allons parler de deux axes. Le premier plutôt sportif et le deuxième plutôt culturel. Et pour nous parler déjà du premier axe un peu plus sportif, on a avec nous Diane Basile qui est professeure de PS. Bonjour Diane.
Bonjour.
Alors vous allez parler avec nous de l'UNSS qui s'organise donc au lycée Europe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement? Qu'est-ce que l'UNSS?
Alors, l'UNSS est une fédération qui regroupe toutes les associations sportives des établissements scolaires en France. Donc, ça regroupe les établissements du second degré. Au lycée Europe, on a donc l'association sportive du lycée qui a pour objectif de faire pratiquer à un maximum d'élèves donc, qui sont licenciés à l'association des pratiques diverses et variées.
Alors, qu'est-ce que, justement, ils ont comme pratique sportive?
Alors, ils ont le choix. Soit ils font des pratiques de loisirs, comme du fitness, de la musculation, du step. Ou alors, ils peuvent aussi pratiquer des activités en compétition. Alors, en compétition au lycée, on est bien représenté en volley, en basketball et en badminton, essentiellement.
Et on a combien d'élèves en fait qui sont inscrits?
On a environ 65 élèves qui sont inscrits à l'association sportive. Donc les entraînements ont lieu le mercredi après-midi, juste avant qu'ils reprennent les cours. Bien sûr, un élève peut pratiquer plusieurs activités s'il veut. Donc ça aussi, ça leur permet de...
Ce sont des heures, en fait, c'est une heure qui est libérée en fait, sur leur emploi du temps pour pratiquer
leur
activité sportive.
Le lycée a permis, sur un créneau du mercredi après-midi de 13h30 à 14h30, de les libérer de cours pour qu'ils puissent participer aux entraînements du UNSS.
Parce qu'on dit souvent, une tête bien faite, c'est aussi un corps bien
fait.
Comme quoi, ça va aussi de pair au lycée Europe. Alors, ça, c'était pour le volet sportif, avec donc toutes les activités qui sont proposées, elles sont nombreuses et variées. Concernant le projet un peu plus culturel, on a également en notre compagnie Maxime Macou. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Maxime Macou est professeur documentaliste au lycée Europe. Il s'occupe d'ailleurs du site internet du lycée et il s'implique dans de nombreux projets au lycée. Alors, nous allons maintenant parler avec lui de cette ouverture culturelle qui est très importante au lycée Europe, comme ce volet sportif. Et comme on peut le voir, et comme nous l'ont montré d'ailleurs les projets précédents, c'est un volet important. Alors, pourquoi cette ouverture culturelle, après tout, est importante pour les élèves?
Alors, elle n'est pas simplement importante pour les élèves du lycée Europe, elle est importante pour tous les élèves, y compris donc les élèves du lycée Europe. Alors, il y a deux raisons fondamentales donc, à cet intérêt pour la politique culturelle, de mon point de vue. Et les deux premiers sont professionnels. La première, c'est que ça fait passer au cœur du métier de professeur documentaliste de participer à l'ouverture de l'établissement. Le deuxième élément qui entre en compte est un établissement fonctionne à l'appui d'un projet d'établissement et dans ce projet d'établissement, l'ouverture de l'établissement, et donc y compris l'ouverture culturelle que doit piloter le chef d'établissement, est déléguée pour ce qui concerne le cadre de la culture au professeur documentaliste. Alors, de quoi s'agit-il très exactement? Bien évidemment, de stimuler la curiosité et l'ouverture des élèves sur le monde. De quelle manière? Eh bien, de favoriser chez eux l'intérêt pour les arts par la fréquentation et par la familiarisation avec les lieux de culture. Ces éléments-là leur permettent de développer leur esprit critique. Enfin, il y a un aspect qui est beaucoup plus personnel. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre acquérir des connaissances et avoir une offre culturelle qui est proposée aux élèves. D'autant que je pense que voir le monde autrement, c'est-à-dire à travers la culture, participe également à mieux apprendre ou à mieux acquérir des connaissances au niveau des enseignements que les élèves poursuivent dans notre établissement.
Alors, est-ce que très concrètement, au CDI, des actions sont mises en place justement dans le cadre de cette ouverture culturelle?
Oui, bien évidemment. Alors, au niveau des actions qui sont menées au CDI, alors, il y a plusieurs pôles que je vais essayer de... Je ne vais pas tous les énumérer, mais je vais essayer d'énumérer les principaux. Alors, autour du théâtre, par exemple, il y a un projet qui a été mené avec une professeure de lettres-histoire avec sa classe de terminale métier et vêtements de la mode qui s'intitulait... Enfin, le nom du projet, c'est Parole en spectacle. Et l'idée qui était derrière ça, c'est de faire comprendre à ces élèves-là comment naît un spectacle. Comment se construit un spectacle? La première chose qu'ils ont faite, bien évidemment, on leur a fait rencontrer les comédiens et le metteur en scène et ils ont vu comment on part du texte pour arriver à le mettre en voie. À la suite de quoi, on est allé voir ce spectacle à la maison commune du Chemin Vert. Après quoi, effectivement, les élèves ont pu rencontrer les comédiens, changer leurs impressions vis-à-vis du texte qu'ils ont lu, de la prestation qui a été faite avant la scène et du résultat après le spectacle. Donc, c'est aussi une opportunité pour faire un lien avec le cœur du métier qu'ils sont en train d'apprendre, puisqu'ils ont, grâce à ce projet-là, eu l'opportunité de rencontrer une costumière qui était d'ailleurs une ancienne élève du lycée Europe, qui en gros expliquait son parcours, c'est-à-dire comment elle est devenue costumière pour les spectacles au niveau de la Comédie de Reims. Alors, ça, c'est au niveau du théâtre. Il y en a d'autres. Hein. Autour de la musique, par exemple, il y a eu un projet qui s'appelait l'école du spectateur. Et là, il s'agissait également de faire découvrir aux élèves une partie du répertoire classique. C'est que bon, nos élèves n'ont pas l'habitude d'écouter ce type de musique-là. Et il n'empêche qu'ils ont quand même été très enthousiasmés par le spectacle en question. Alors, autour du cinéma, cette année, on a innové, on s'est inscrit au prix Jean Renoir. Alors, le prix Jean Renoir, c'est une sorte de... On peut le comparer au Goncourt des lycéens. C'est exactement sur le même principe, sauf que là, c'est appliqué au cinéma. Effectivement, les élèves d'une classe, parce qu'il y a deux classes par académie, on a eu la chance, nous, d'être sélectionnés donc, pour ce projet-là. Donc, ils avaient à voir 8 films qui sont sortis au cours de l'année 2013, pardon, et de proposer des critiques. Alors, effectivement, une fois que les critiques seront proposées, les meilleurs seront sélectionnés. Et si nous avons l'opportunité, ben, nous aurons nos élèves qui pourront, enfin, deux de nos élèves qui représenteront l'ensemble de la classe, qui participeront donc à, j'allais dire, au jury académique, et si on a un peu plus de chance, au jury national aux alentours du mois de juin de 2014. Alors, sur la littérature, je dirais simplement un petit mot là-dessus, puisque ça a déjà été abordé dans un reportage précédent. Effectivement, cette année, dans le cadre de l'opération menée par Interbibli, on a eu l'opportunité de faire venir dans l'établissement donc Élise Fontenay, qui a pu échanger avec une classe de seconde assistante soins et services. Alors, les élèves l'ont bien expliqué, hein, la thématique abordée dans le livre d'Élise Fontenay, à savoir l'homme qui haïssait les femmes, touche à un sujet qui, quelque part, leur parle, puisque c'est un peu aussi en lien avec l'actualité, puisqu'on parle d'égalité homme-femme, et le sujet est au cœur même de ce fait divers, parce que c'est avant tout un fait divers, avant d'être un livre. Alors, l'autre axe culturel éducatif, et enfin, plutôt éducatif, mais c'est quand même culturel qu'on a mis en place, c'est tout ce qui concerne l'éducation aux médias. Donc, notamment, nous avons depuis quelques années la possibilité, enfin, l'opportunité de participer au concours École et Médias, qui repose sur un principe assez simple, c'est-à-dire qu'il y a une thématique académique qui est définie. Alors, cette année, c'est l'avenir et le numérique. Et autour de cette thématique-là, plusieurs productions sont possibles. Alors, il y a des productions écrites. Alors, les élèves vont écrire un article avec un cahier des charges ou faire un reportage radio, un reportage vidéo. Et cette année, on innove puisqu'il est proposé effectivement aux élèves de faire, j'allais dire, un travail sur les médias de l'Internet. Donc voilà en gros les projets sur lesquels on a travaillé. Alors, si, il y en a un que j'ai oublié puisque tout à l'heure, je parlais d'ouverture par mon action, de l'ouverture culturelle qui participe à l'ouverture de l'établissement sur son environnement. Si on va un peu plus loin, il est quand même demandé, notamment au lycée, de poursuivre cette ouverture-là au-delà. Donc, il y a l'ouverture à l'Europe et à l'international. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on a initié un projet par le biais de la plateforme eTwinning. Alors, eTwinning, c'est une plateforme européenne qui permet à différents établissements de l'Union européenne, de pouvoir travailler ensemble autour de projets. Alors, cette année, on a travaillé avec un établissement italien sur le principe suivant. Ils sélectionnaient une série qui est assez populaire dans leur pays. Nous faisons de même. Et nous devons imaginer des dialogues. Et pour encore, corser un peu la tâche, il leur est demandé d'imaginer ces dialogues-là, de les traduire et de les enregistrer en anglais. Donc, vous voyez, on fait à la fois de l'ouverture culturelle, mais on fait aussi un travail sur la langue.
Ça, c'est pour cette année, sur tous les projets qui sont passés et qui sont en cours. À l'horizon, là, pour la rentrée 2014, quels sont les projets culturels pour les futurs élèves ?
Alors, pour l'année 2014, hein, je crois que je peux résumer ce qui est prévu en deux termes, continuité et innovation. Alors continuité, pourquoi ? Parce qu'on va reconduire finalement toutes les expériences qui ont fonctionné cette année. Donc effectivement, on va reconduire tout ce qui concerne le concours autour de la presse, tout ce qui concerne les actions menées autour de la presse, le projet interbiblique qui a très bien marché, qui a beaucoup enthousiasmé les élèves sera également reconduit. Alors, concernant l'innovation, cette année, enfin pour l'année prochaine, on a un projet de concevoir à l'échelle de l'établissement une politique culturelle. L'idée, c'est de permettre à chaque élève, je dis bien chaque élève, durant son parcours de 3 ans, voire 4 ans, mais on espère 3 ans pour les meilleurs dans notre établissement, de pouvoir bénéficier d'un parcours culturel. Donc on est en train de réfléchir sur la mise en place de ce projet-là. Pour le moment, nos réflexions s'arrêtent sur le niveau première. Pourquoi ? Parce que la seconde, les élèves arrivent, donc ils découvrent leur environnement, vais-je dire. En terminale, ils sont quand même préoccupés par l'objectif du bac. Donc finalement, le niveau première s'apparente comme étant le plus adapté. Donc on est en train de réfléchir sur cet axe-là. Alors il y aura vraisemblablement deux axes majeurs, tout ce qui concerne les arts de la scène et tout ce qui concerne le patrimoine. Et donc c'est encore en cours de définition.
Et donc tout ça, ce sera donc pour la rentrée prochaine.
Nous l'espérons.
En tout cas, on l'espère aussi pour les futurs élèves qui sont présents aujourd'hui pour la journée porte ouverte. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Macou.
Merci à vous aussi.
Et merci beaucoup, Madame Basile. Europe Live, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. Je remercie tous nos invités, Madame la proviseure du lycée Europe, ainsi que tous les professeurs qui ont tout de suite accepté de venir répondre à nos questions au micro d'Europe Live, ainsi que les élèves qui sont venus présenter leur travail et ça n'a pas été une mince affaire pour eux. On peut vraiment les encourager, car après tout, cette web radio, elle est d'abord faite pour eux et peut-être bientôt par eux. Je remercie également Sébastien Thévenot et Maxime Macou qui ont bien voulu assurer la préparation de ces programmes. Ce n'est pas non plus une mince affaire et vous pourrez écouter ou réécouter cette émission en podcast sur le site internet du lycée www.lp-europe.fr. Nous fermons les micros ouverts à l'occasion de cette journée porte ouverte du lycée et nous vous disons à bientôt.